parce que la présence du Seigneur est là, Dieu se révèle. Il nous parle selon nos besoins. Il sait comment nous parler. Il sait comment se révéler à nous, car il est le Dieu de la révélation. Et un mot de sa part peut briser toutes nos chaînes et tout changer dans nos vies. Comme avec Marie de Magdala, n'est-ce pas vrai? Marie. Un seul mot, et ses chaînes sont tombées. Elle est devenue une femme nouvelle. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tout en restant dans l'esprit d'adoration, soyons maintenant comme Marie aussi, une autre Marie, au pied du Seigneur, pour écouter sa parole. Amen. Car je suis sûr qu'il veut encore nous faire du bien au travers de sa parole. Et les quelques paroles que je voudrais vous donner ce matin sont en rapport avec l'adoration. Et j'aimerais donner les 5 fruits de l'adoration. Dans l'adoration, lorsque nous adorons Dieu par Jésus-Christ, notre Sauveur, de tout notre cœur, il y a des fruits, n'est-ce pas vrai? Il y a des fruits. Certains chrétiens considèrent encore l'adoration comme une perte de temps. Cela révèle que les écailles ne sont pas encore tombées des yeux. Si vous pensez que l'adoration est une perte de temps, que font les anges et les archanges dans le ciel? Continuellement, ils adorent Dieu. Vous croyez qu'ils perdent leur temps? Vous croyez qu'ils font quelque chose qui ne sert à rien? Dites-moi un petit peu. Vous croyez que les anges font quelque chose dans le ciel qui ne sert à rien? Ils ne perdent pas leur temps, au contraire. Ils gagnent du temps. Et si nous n'adorons pas le Seigneur, c'est nous qui perdons du temps. Un chrétien qui n'a pas encore les yeux ouverts sur cette vision céleste de l'adoration, aura beaucoup de lacunes dans sa vie spirituelle. Il sera comme cette fusée qui montera 100 mètres, 200 mètres ou 1 kilomètre, mais qui retombera constamment. Il n'y a pas en lui cette chaleur, cette puissance, cette énergie que produit l'adoration pour le garder sur l'orbite et ainsi accomplir dans ce monde, le ministère que Dieu veut lui donner. Amen. Voyons donc brièvement les 5 fruits de l'adoration dans nos vies. Et j'aimerais qu'on prenne comme texte de base Philippiens chapitre 3, verset 3. C'est facile à reconnaître. Philippiens 3, 3. Philippiens 3, 3. Gloire à Dieu. Il y a Philippiens 4, 4 aussi qui est facile à reconnaître. Qui est-ce qui connaît Philippiens 4, 4? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Ça c'est facile à retenir. Et maintenant, Philippiens 3, 3, car les circoncis c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Ici, nous avons un des premiers fruits de l'adoration dans notre vie. Ce passage est en rapport avec l'adoration, n'est-ce pas vrai? Notre culte que nous rendons par l'Esprit de Dieu. Et il est dit, et nous nous glorifions en Jésus-Christ. Ici, le verbe glorifier est assez vague. Quand on dit se glorifier, bon, c'est bien, il y a une pensée précise, mais elle ne donne pas exactement la pensée du texte grec. Il y a un autre verbe, les versions anglaises disent plus cela. Au lieu de dire « nous nous glorifions », il est dit « et nous nous réjouissons en Christ ». Nous exultons en Christ. Et ce matin, avant de venir ici, je me suis dit « mais que veut dire le verbe « exulter » exactement ?» C'est vrai, il y a des fois on emploie des mots, mais on n'en connaît pas le sens. Peut-être que vous le savez, certainement. Mais moi, j'ai dû regarder mon dictionnaire
Et voici ce que le verbe exulter veut dire. Ça m'a fait du bien. Et c'est pourquoi on va comprendre quelque chose de tout à fait nouveau ici. Le verbe exulter veut dire être transporté d'une joie extrême. Être transporté d'une joie extrême qu'on ne peut contenir ni dissimuler. C'est cela exulter. C'est une joie extrême qu'on ne peut contenir et qu'on ne peut dissimuler. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une joie explosive. C'est une joie qui se manifeste. Le premier fruit d'une vraie adoration, c'est la joie. C'est pourquoi il y a beaucoup de joie au milieu de nous. C'est le moment de dire Alléluia. Alléluia! Mais malheureusement, certains cultes soi-disant d'adoration dans beaucoup d'églises, et cela je le dis pas méchamment, pas du tout, mais c'est pour qu'on puisse voir les choses telles qu'elles sont, on a l'impression d'assister à plutôt un enterrement qu'autre chose. Et même dans certains endroits, la joie est défendue. Ah oui, ah oui. Et le visage triste est de rigueur. Ah oui. Et plus vous avez le visage triste, plus vous êtes spirituel. Je n'exagère pas. Est-ce vrai ou pas? C'est tout à fait ça. Une fois, j'ai entendu ceci. Une personne qui a écouté des cassettes de louanges comme ça. Oui, une cassette de louanges. Cette personne a dit, mes frères, vous, c'est un peu dans votre tempérament. Ah, j'ai dit, c'est dans mon tempérament ou dans le tempérament de ceux qui viennent ici? Ici, ceux qui viennent ici ont un tempérament spécial? Alors j'ai dit à cette personne, une chrétienne, baptisée dans le Saint-Esprit, tout. J'ai dit, mais c'est tout à fait à l'opposé de la vérité. Cette parole déjà concernant moi-même, si je m'écoutais, moi-même, je me connaissant tel que je suis plutôt celui qui se replierait sur moi-même. Donc dire que c'est mon tempérament de vouloir être expansif comme cela, m'extérioriser, ce n'est pas du tout cela. Ce n'est pas du tout une question de tempérament. Ah, ça convient pour les Africains, les Martiniquais. Ils sont plus ouverts. Mais nous, ici en Europe, Et nous pensons parfois que nous sommes plus spirituels en étant plus tristes. Mais la vérité est celle-ci. La joie dont il est question ici n'est pas une question de tempérament. Vous le savez comme moi, la joie est un fruit de l'esprit. Autrement dit, lorsque nous manifestons cette joie, nous ne manifestons pas le tempérament martiniquais, africain, ou je ne sais quoi, ou indonésien, ou philippien, ou corinthien. Ou colossiens. Non, mais nous manifestons le tempérament du vrai chrétien. Ah, ça c'est pas mal, ça a bien fini, hein? Alléluia. Ça chauffe, ça chauffe. Alléluia. C'est la fusion, la combustion. Oh, alléluia. Amen. Non, mes chers amis, écoutez-moi bien. Voilà comment les premiers chrétiens adoraient. Ils exultaient dans le Seigneur. Autrement dit, ils avaient une joie qu'ils ne pouvaient contenir ni dissimuler. Et c'est ce que la vraie adoration produit. Si nous adorons soi-disant, nous adorons Dieu, et que nous soyons toujours les mêmes, dépressifs, tristes, et que nous fassions cela comme cela, sans qu'il y ait une joie profonde qui est créée, qui naît en nous, mes chers amis, nous n'adorons pas Dieu comme il le faut. Selon la parole de Jésus, nous ne sommes pas des vrais adorateurs. Car Jésus a dit qu'il recherche les vrais adorateurs. C'est parce qu'il y a les faux adorateurs. Et il y a, dans beaucoup d'églises aujourd'hui, il y a des faux adorateurs. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais il n'y a rien qui vient du cœur. C'est formaliste, rituel. Il faut surtout rien manifester, rien, surtout pas. Surtout pas, ce serait presque un péché de dire Alléluia. Mais le fruit de l'esprit, c'est
la joie.
Et voilà le premier fruit de l'adoration. Une joie profonde.
Amen.
Voilà pourquoi Jésus était oint d'une huile de joie. Bien souvent, on dépeint Jésus comme une personne triste. Cela n'est pas le vrai Christ. Laissez-moi dire une chose. Oui, à la croix, bien sûr. D'accord. Là, il était triste, souffrant, nous le savons. Il était défiguré. Semblable à une brebis que l'on conduit à la boucherie. C'est vrai. Là, on ne le reconnaissait plus. C'est vrai. Mais tout cela, c'était à cause de notre péché. Mais Jésus, dans sa vie, était un homme joyeux. Les enfants aimaient s'approcher de lui. Amen. Les enfants couraient après Jésus. Vous savez, les enfants savent discerner quelles sont les personnes joyeuses ou pas. Avez-vous vu des enfants courir après une personne dépressive? Avez-vous vu? C'est exactement le contraire qui se passe. Les enfants fuient les personnes dépressives ou tristes. Mais un enfant est comme attiré par quelqu'un qui est joyeux. Amen. Alléluia. Et plus nous adorons le Seigneur, plus nous serons joyeux. Mais de cette joie céleste, pas de cette joie terrestre, qui dépend des circonstances, qui dépend des personnes, des événements. Une joie qui est constamment influencée par nos sentiments ou par les circonstances extérieures. Non, c'est une joie qui n'est pas influencée, mais c'est une joie qui influence les autres. Amen.
Amen.
Alléluia. Et c'est pourquoi la vraie joie est contagieuse. Amen.
Amen.
Et nos cultes d'adoration devraient être des cultes où l'on exulte le Seigneur, où l'on ne peut pas se retenir. Alléluia. Des fois, on entend des prières, « Seigneur, je ne peux pas me retenir, ça va exploser. » Ben, c'est ça exactement. C'est cela. Et beaucoup regardent ces personnes comme des personnes. Il faut dire les choses comme elles sont, n'est-ce pas vrai? On les regarde un petit peu comme des personnes un peu bizarres. Non, mes chers amis. Ce que Dieu veut, c'est ce qui vient du cœur. Un jour, j'ai lu il y a pas, ces jours-ci une petite histoire. C'était l'histoire d'un ange qui est allé à l'église avec un homme, un chrétien. Ils sont allés à l'église et alors le service a commencé. La personne responsable a commencé à prier pour rendre grâce à Dieu pour cette réunion. La personne parlait, mais l'ange et le frère-là, il ne voyait rien, il n'entendait rien du tout.
C'est drôle.
Il parle, on n'entend rien. Après, la chorale est venue. Ils ont commencé à chanter. Ils n'entendaient rien. Après, il y a eu la prédication. Il parlait. Mais l'ange et la personne n'entendaient toujours rien. Alors, l'homme a questionné l'ange en disant, mais c'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'on ne les entend pas? L'ange lui dit, je vais te dire pourquoi. Parce que tu vois les choses là comme Dieu les voit. Tu ne vois pas les choses maintenant comme les hommes les voient. Tu vois les choses comme Dieu les voit. Et tous ceux qui ont parlé ou chanté ou prié pendant la réunion que tu as vue maintenant, aucun ne l'a fait de tout son cœur. Tout ce service qui est là, c'est un service rituel, formaliste. Ça sort de la tête et simplement de la bouche. Mais l'ange lui dit, rien n'est sorti du cœur. Et voilà pourquoi, au ciel, on n'entend rien du tout. Et alors que l'ange était en train d'expliquer cela, tout à coup, ils entendent un petit enfant d'une dizaine d'années faire une prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et l'ange dit, tu vois cet enfant qui est en train de prier, il est le seul qui a prié
de tout son cœur. Ce qu'il dit, il le croit dans le fond de son être. C'est pourquoi la seule prière entendue pendant tout ce culte, c'est la prière de cet enfant. Tout le reste, devant Dieu, c'est inutile. Chers amis, bien souvent, il en est ainsi, n'est-ce pas vrai? Ce n'est pas ce qui sort de nos lèvres comme cela qui plaît à Dieu. C'est ce qui sort du fond de notre cœur. Amen. Et laissez-moi vous dire une chose. Quand quelque chose sort de votre cœur, il y a du sentiment, n'est-ce pas vrai? Il y a du sentiment. Il ne faut pas tomber dans le sentimentalisme, je suis d'accord. Il faut toujours un équilibre en tout. Mais lorsque quelque chose sort du cœur, il y a du sentiment, n'est-ce pas vrai? Quand un bien-aimé dit à sa bien-aimée « je t'aime », croyez-vous que c'est une leçon qu'il a apprise? S'il n'y a pas de sentiment, croyez-vous que l'autre va croire qu'il est aimé? Non, dans cette déclaration d'amour, il y a du sentiment. Et c'est normal. Et avec Dieu, il ne faudrait pas faire de sentiment. Avec Dieu, il faut que tout soit froid, formaliste, rien n'extériorisé. Ah, oui, nous pouvons le faire. Mais alors, nous sommes de faux adorateurs. Nous ne sommes pas les vrais adorateurs que Dieu recherche. C'est pourquoi il est important, lorsque nous venons dans la présence de Dieu pour l'adorer, que nos prières sortent du fond de notre cœur. Amen. Et voilà les prières que Dieu exauce. Voilà l'adoration qui est agréable à Dieu. Amen. Oh, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il est dit des premiers chrétiens qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit et de joie. Il y avait une joie parmi les premiers chrétiens. Nous devons redécouvrir toutes ces choses, n'est-ce pas vrai? Car les gens les plus heureux de la terre, c'est qui? Ce sont les chrétiens. C'est eux qui possèdent cette vraie joie. Et personne n'a le droit de nous faire taire. Ni aucune religion, ni aucun commandement humain, ni aucune tradition religieuse ne peut nous faire taire. Et n'a le droit de nous faire taire. Un jour, des enfants criaient et louaient le Seigneur. Les disciples, qu'est-ce qu'ils ont dit? Seigneur, me fais les taire. Et qu'est-ce qu'il a dit, le Seigneur? S'ils se taisent, les pierres crieront. Amen. Alléluia. Si vous vous taisez, Dieu en fera parler d'autres. Vous perdrez la bénédiction. Mais Dieu saura trouver des hommes et des femmes qui savent adorer Dieu. Amen. Alléluia. C'est à toi de choisir. Il y a un choix à faire. Es-tu un vrai adorateur ou un faux adorateur? Il y a un choix à faire. Et il cherche les vrais. Les vrais. Gloire au Seigneur. Deuxième fruit de l'adoration, 2 Corinthiens 3:18. Le deuxième fruit, c'est la transformation de notre être. Amen. 2 Corinthiens 3:18. Il y a un verset extraordinaire ici qu'il est important de lire. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Voyez-vous, un autre fruit maintenant. Lorsque nous contemplons le Seigneur, notre cœur est débordant de joie, débordant. Nous exultons. Nous ne pouvons pas nous retenir. Ça se voit. Ça se voit. La vraie joie se voit. Si ça ne se voit pas, c'est qu'elle n'existe pas. Je ne veux pas dire qu'il faut avoir toujours, que ce soit toujours 3 fois moins 4, ou 9 heures et quart. Ça ne se verra peut-être pas sur nos lèvres, mais ça se verra dans nos yeux. Amen. Dans les yeux, il y a quelque chose qui brille. Il y a un feu qui est là derrière. C'est la combustion. C'est la fusée qui est là. En combustion, c'est le premier étage de la fusée qui bout. Alléluia.
Le deuxième fruit, c'est la transformation. Lorsque nous vivons longtemps avec quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Nous ressemblons à cette personne-là. Et une personne qui vit avec Jésus et qui adore tout spécialement le Maître, c'est une personne qui ressemblera au Maître. Amen. Moi, je ne veux ressembler à personne d'autre qu'à Jésus. Qui est-ce qui veut ressembler qu'à Jésus? Levez la main. Bon, c'est bien. Je ne suis pas le seul. Ça me fait plaisir, je ne suis pas le seul. Alléluia. Il y en a qui veulent ressembler à d'autres. Non, mes chers amis, notre seule ambition doit être de ressembler à Jésus. Et dans l'adoration, il y a quelque chose qui se passe. C'est comme Moïse sur la montagne. Son visage rayonnait. Il ne savait pas que son visage rayonnait. Il ne le savait pas. Il ne le voyait pas. Il ne se promenait pas avec une glace. Il ne voyait pas le rayonnement qu'il y avait sur lui, en lui. Mais les autres le voyaient. Amen. Il en est de même avec vous et avec moi. Si nous adorons le Seigneur, il y aura comme un rayonnement sur notre visage. Les autres discerneront quelque chose. Comme les pharisiens disaient des premiers apôtres, mais ils ont été avec Jésus. Il y a quelque chose qui est là, qui fait qu'ils ressemblent à un certain Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont été avec lui. Amen. Combien d'entre nous, nous désirons ressembler à Jésus? Nous désirons nous sanctifier. Un des moyens les plus puissants, les plus efficaces pour grandir dans la sanctification, c'est l'adoration. Ça se fera inconsciemment. Parce que dans l'adoration, notre cœur s'ouvre et l'Esprit de Dieu peut agir librement. Et la transformation se fait en profondeur. Amen. Ce n'est pas une transformation extérieure, une sanctification extérieure, superficielle. Certains ont fait de la sanctification une apparence physique. Si on a telle attitude, tel comportement, alors on est sanctifié. Si tes cheveux n'ont pas la même longueur que mes cheveux, tu n'es pas sanctifié. Ah oui, il y en a qui sont comme ça. Ils ont toujours un mètre dans la poche. S'il y a un centimètre de plus ou de moins, tu n'es pas sanctifié. Ah oui. Ils ont fait de la sanctification une apparence extérieure. Dans la Bible, il y a des hommes qui avaient fait cela. C'était les pharisiens. Ils ont l'apparence d'être justes. Mais l'intérieur était mauvais, méchant. Chers amis, la transformation de notre être, c'est quelque chose qui est en profondeur. Alléluia. Ce n'est pas une apparence extérieure, mais c'est l'Esprit qui nous transforme, alléluia, et qui fait qu'il y a le rayonnement de Jésus qui grandit, qui se purifie au fur et à mesure que nous avançons. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ne l'oubliez jamais, la sanctification, c'est ressembler à Jésus. Ce n'est pas suivre certaines traditions humaines qui disent, voilà ce que signifie être sanctifié. Si tu fais comme nous, si tu parles comme nous, si tu pries comme nous, si tu vas là où nous allons, tu es sanctifié. Sinon, tu n'es pas sanctifié. Ça, c'est la sanctification humaine qui n'a rien à voir avec celle de Dieu. La vraie sanctification divine, c'est ressembler à Jésus. Amen. Voilà, mes chers amis, c'est tout simple. Nous contemplons le Seigneur et nous sommes transformés de gloire en gloire. Voyez-vous, ça se fait toujours de mieux en mieux, de mieux en mieux. Ça se fait lentement, mais ça se fait sûrement. Alléluia. Gloire au Seigneur. Allons plus loin. Troisième fruit. Troisième fruit, c'est la communion. La communion entre chrétiens. Un autre fruit de l'adoration, c'est la communion. L'unité entre chrétiens. Référence, Actes 2, 46. Acte 2, 46, c'est ce que nous voyons avec les premiers chrétiens. Acte 2, 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Voyez-vous ici un autre fruit de cette louange, de cette adoration? C'est cet esprit d'unité qui est créé lorsque nous adorons tous la même personne. C'est pourquoi dans le ciel, il y a et il y aura une parfaite unité, parce que dans le ciel, il n'y a qu'une seule personne qui est adorée, c'est Jésus. Amen.
Amen.
Ne l'oubliez pas, dans le ciel, il n'y aura personne d'autre. Personne d'autre. Parce que devant Dieu, toutes les autres personnes n'ont pas de valeur. Seule une personne a de la valeur, c'est l'agneau de Dieu. Et voilà pourquoi, parce qu'ils adorent tous la même personne. Il y a un amour pour une seule et même personne. Quand on est 1 million, 10 millions, 100 millions à adorer la même personne, il y a une unité extraordinaire entre ces personnes qui aiment la même personne. Amen. N'est-ce pas vrai, lorsque nous adorons le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il y a une unité formidable entre nous, n'est-ce pas vrai? Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une personne qui nous unit, qu'une personne, et c'est Jésus. Amen.
Amen.
Et là où il y a l'esprit d'adoration pour le Seigneur et lui seul, il y aura l'unité parfaite. Mais laissez-moi vous dire une chose. Là où Christ n'est pas le centre, là où une autre personne, quelle qu'elle soit, ou une église, ou un mouvement, ou un homme, ou une femme, prend la place de Jésus, ou est à côté de Jésus, ou est en dessous de Jésus, ou en dessus de Jésus, il n'y aura jamais d'unité. La vraie unité se fait en Jésus et en Jésus seul. C'est le moment de dire alléluia. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Oui, il y aura un seul berger et un seul troupeau. Gloire à Dieu. Mes chers amis, il en sera ainsi dans le ciel. C'est pourquoi que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Oh, alléluia! Gloire à Dieu!
Amen!
C'est merveilleux, c'est merveilleux. Moi, je ne pose jamais de questions sur quoi que ce soit, qui que ce soit ici. Vous avez remarqué? Je parle de personne d'autre que de Jésus. Et de sa parole. Et si nous nous approchons, si nous sommes ancrés sur lui et sur sa parole, il y aura une unité extraordinaire. Amen.
Amen.
Alléluia.
Et voilà, les premiers chrétiens étaient dans cette unité que nous désirons tous aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais il y a aussi de fausses unités. Une unité superficielle, mais dans le fond du cœur, il n'y a rien qui va. Par devant, on est unis, mais par derrière, on est désunis. Non, mes chers amis, ça c'est de la caricature. C'est de la caricature! Et on veut faire croire que ça y est, on y est. Alors que Christ n'est pas au centre. Christ n'est pas tout en tout et pour tout. Il faut qu'il ait en tout la prééminence, la première place. Alléluia. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes unis. Voilà pourquoi l'adoration est une puissance extraordinaire pour unir les chrétiens nés de nouveau. Parce que nous aimons tous la même personne. Et que, attention, cet amour n'est pas partagé pour quelqu'un d'autre. Quand notre amour est partagé, même si nous aimons 90% le Seigneur Jésus et 1% de notre amour va pour une autre personne, aux yeux de Dieu, nous n'aimons pas Dieu, nous sommes des idolâtres. Nous ne sommes pas des adorateurs, nous sommes des idolâtres. Dieu ne dit pas, oh, c'est formidable, 99% de ton cœur est pour moi, c'est formidable. Oh, je suis content de toi, tu sais. Non, 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 non. Il dit, il y a un petit pourcent qui est là. C'est ce petit pourcent qui me déplaît. Parce qu'il n'est pas pour moi. Il est pour un homme. Il est pour une femme. Même religieuse. Qui que ce soit. Mon ami, tant qu'il en sera ainsi, le véritable amour n'est pas manifesté. L'amour est jaloux, vous êtes d'accord avec moi? L'amour est jaloux. Quand on aime quelqu'un, on doit se donner 100% à cette personne. Vous êtes d'accord avec moi? C'est comme si vous disiez à la personne que vous aimez, à votre épouse, ou, tu sais, je t'aime. Oh, si tu savais comme je t'aime. Mais tu sais, de temps en temps, je vais un peu me promener aussi. Quoi, où tu vas? Mais tu sais, je t'aime. Ça n'enlève rien à mon amour pour toi, ça n'enlève rien. Je t'aime. Mais tu vois, de temps en temps, quand même, je me paye un peu le luxe d'aimer autre chose. Que va répondre cette personne? Si c'est ça ton amour, je n'en veux pas. Ou c'est tout, ou c'est rien. Ou c'est Jésus, ou c'est quelqu'un d'autre. Mais nous ne pouvons pas aimer Jésus et une autre personne. Ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez servir deux maîtres à la fois. Ou moi, ou maman. Nous, nous pouvons être satisfaits de notre amour pour Jésus lorsqu'il est à 99%. Mais lui ne le sera jamais. Et si tu ne m'aimes pas à 100%, il te dit, si une autre personne est l'objet de ta vénération ou de ton adoration, tu ne m'aimes pas en réalité. C'est pourquoi je veux ton cœur. Et quand Jésus est dans notre cœur, lorsque Jésus est tout pour nous, qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons plus besoin de personne d'autre. Amen. Alléluia. On n'en a plus besoin. On n'en a plus besoin. Il nous satisfait pleinement. Amen. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Alléluia. Nous n'avons plus besoin de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi dans notre bouche, il n'y a qu'un nom, c'est Jésus, Jésus. Là, dans l'Ancien Testament, il est dit dans le Cantique des Cantiques que son nom est comme un parfum qui se répand. Oh, alléluia. Le nom de Jésus est comme un parfum. Tout autre nom, ça ne sent pas le parfum. Ça ne sent pas le parfum. Commence à éternuer. Et puis, il y a encore autre chose. Alléluia, alléluia. Quatrième fruit, vous êtes d'accord avec moi? On y va. C'est pas important d'être d'accord avec moi. L'important, c'est que vous soyez d'accord avec la parole de Dieu. Amen. Si vous êtes d'accord avec la parole de Dieu, je suis d'accord aussi, moi, avec la parole de Dieu, alors on s'entendra. Amen. Mais ne soyez pas d'accord avec moi. Ça... Non, non, pas avec moi. Tous ensemble, avec Dieu, avec ce que Dieu dit. Quatrième fruit de l'adoration, c'est la révélation. Acte 13, verset 2. Acte 13, verset 2. Vous connaissez ce passage, verset 1 déjà. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit... Voyez-vous, là, il y a une révélation, l'Esprit de Dieu parle. Mais quand est-ce que l'Esprit de Dieu a parlé? Quand il servait le Seigneur. Écoutez-moi bien, là encore, ce mot servir, ce verbe servir, ne dit pas exactement ce qu'il faisait. Qu'est-ce que ça veut dire servir, là? C'est vrai, il servait le Seigneur. On peut dire qu'il prêchait et puis et qu'il servait le Seigneur en prêchant. Mais là encore, dans le texte original, le verbe servir, c'est le verbe adorer. Alors qu'ils adoraient le Seigneur dans le jeûne, le Saint-Esprit dit. Autrement dit, le quatrième fruit de l'adoration, c'est la révélation. Avez-vous remarqué une chose? Lorsque nous adorons Dieu, lorsque vous adorez Dieu, vous êtes renouvelé dans le Saint-Esprit. Votre esprit en vous est renouvelé, vous êtes rempli du Saint-Esprit. Et lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, et lorsque nos regards ne sont que sur Jésus, orientés vers lui, à ce moment-là, étant remplis de l'Esprit, et nos regards n'étant que sur Jésus, il se passe quelque chose. Nous sommes sensibles à la voix de l'Esprit. Et alors à ce moment-là, nous avons des pensées, nous avons des sentiments qui sont là, et qui peuvent être de véritables révélations, des réponses à beaucoup de questions que vous vous posez. Souvent après l'adoration, soyez attentifs aux pensées que vous avez. Soyez attentifs aux sentiments que vous avez. C'est Dieu qui vous parle. Pourquoi? Parce que dans l'adoration, nous sommes sensibles à la voix de l'Esprit. Et là, Dieu peut vous parler et vous donner des révélations. Vous donner ce dont vous avez besoin sur le moment pour faire ce qu'il faut faire ou ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire. L'adoration produit donc cet esprit de révélation. Et cela, c'est pour tout enfant de Dieu. Amen. Et nous en avons besoin de révélation. Nous avons besoin de savoir où nous allons. Nous avons besoin de savoir où nous en sommes. Vous en avez besoin. Adorez Dieu davantage. Faisons-le davantage. Faisons-le davantage. Et Dieu nous parlera davantage. Nous serons plus sensibles à sa voix. Et Dieu pourra mieux nous conduire. Et je termine. Le cinquième fruit de l'Esprit, d'adoration, Luc 1, 19, c'est l'esprit missionnaire ou l'esprit d'évangélisation. Luc 1, 19, vous allez voir là ce principe qui est là avec l'ange Gabriel. Luc 1, 19, il est dit, l'ange lui répondit, je suis qui? Gabriel, je me tiens devant Dieu. D'après vous, qu'est-ce qu'il fait quand il se tient devant Dieu? Il est là comme ça? Vous croyez qu'on se tient devant Dieu comme ça? Qu'est-ce qu'il faisait en se tenant devant Dieu? Il adorait Dieu. Tous les autres passages dans l'Apocalypse et ailleurs nous montrent que ceux qui se tiennent devant Dieu, ce sont ceux qui l'adorent. Sinon, ils n'ont rien à faire devant Dieu. Mais quand on se tient devant Dieu dans l'adoration, qu'est-ce qui se passe? Regardez maintenant, le fruit. J'ai été envoyé pour te parler. Le fruit de l'adoration ici, quand nous adorons Dieu, quand nous sommes dans sa présence, quand nous avons réjoui son cœur et que nous sommes remplis, bénis nous-mêmes, Dieu nous dit maintenant, tu as été dans ma présence, tu as entendu ma voix, tu as été béni, je t'ai donné quelque chose, maintenant, va, parlez maintenant à celui-ci, à celle-ci, maintenant, va, tu as une mission à accomplir. L'adoration engendre la mission, l'évangélisation. Et c'est pourquoi Jésus a dit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Avez-vous remarqué? Avant le service, c'est l'adoration qui vient en premier. Autrement dit, avant d'être des serviteurs, Dieu veut que nous soyons des adorateurs. Et lorsque nous sommes des vrais adorateurs, nous serons des vrais serviteurs et des bons serviteurs. Car un vrai adorateur sera toujours un bon serviteur. Amen. Mais un mauvais adorateur fait toujours généralement un mauvais serviteur. Comment pouvez-vous dire aux autres ce que vous n'avez pas reçu dans la présence de Dieu? Comment pouvez-vous apporter la présence de Dieu aux autres quand vous-même, vous ne l'avez pas expérimenté, quand vous n'avez pas été dans la présence de Dieu? Tout ce que vous direz, tout ce que je dirai sera sans fruit.
Mais Dieu vous dira, maintenant que tu es resté dans ma présence et que ton cœur a été transformé, que la joie du Saint-Esprit est en toi et que j'ai mis mes pensées dans tes pensées, mon amour dans ton cœur. Maintenant, lève-toi, va, j'ai une mission pour toi, ambassadeur pour Christ. Nous l'avons vu hier soir. Mais avant d'être ambassadeur, il nous faut être des adorateurs. Amen. Et c'est comme cela que nous accomplirons notre fonction d'ambassadeur avec efficacité. Amen. Car un ambassadeur n'a pas d'autorité s'il ne reste pas en communion avec son pays. Vous êtes d'accord avec moi? S'il ne reçoit plus d'ordre, s'il n'est plus en communion avec son pays, est-ce qu'il est encore ambassadeur? C'est plus un ambassadeur, c'est un rebelle. Il fait ce qu'il veut. Mais un vrai ambassadeur, s'il veut parler au nom de son pays, il doit être constamment en communion, en relation, en collaboration. Sinon, c'est pas l'ambassadeur. Il raconte ce qu'il veut. Un ambassadeur ne dit jamais dans le pays où il est. Oh, à mon avis, je pense que les choses devraient se faire comme ça. Vous croyez qu'il va rester longtemps ambassadeur, celui-là? Le pays là où il est, ils vont lui dire comment? À ton avis? Mais moi, je pense que j'ai pas le feu vert de mon président. Mais moi, je pense qu'il faut faire les choses. Comment? Tu n'as pas le feu vert de ton président et tu es en train de nous raconter un peu ce que tu penses? Rentre à la maison! Tu n'es pas un ambassadeur! Mais l'ambassadeur dit, le président m'a téléphoné ce matin. J'ai eu une heure de conversation avec lui au téléphone. Voilà ce qu'il m'a dit de vous dire. Ah bon, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit que, voilà comment les choses vont se passer. Ah oui, d'accord. Il a de l'autorité parce qu'il parle au nom d'une autre personne. Parce qu'il est en relation avec cette personne. Vous êtes d'accord avec moi? C'est tout simple. Mais ce sont des choses que nous négligeons parfois. Et c'est pourquoi nous sommes déçus dans beaucoup de domaines. Les fruits de l'adoration. Pouvons-nous encore dire que nous perdons notre temps? Qui peut dire encore qu'il perd son temps? En adorant, c'est celui qui n'adore pas qui perd son temps. Que le Seigneur nous aide à mettre en pratique sa parole et à le glorifier dans nos vies et à le servir de tout notre cœur. Amen. Alléluia. Ça, c'est le premier étage de la fusée. C'est là qu'il y a le feu, l'énergie divine. Que le Seigneur nous donne d'alimenter constamment ce premier étage. Si vous manquez de l'alimenter, vous allez piquer du nez. Vous allez être défiguré. On ne va plus vous reconnaître. Tellement vous êtes tombé sur le nez. Ou si vous ne tombez pas sur le nez, les autres vous feront des croche-pattes. Et vous n'arriverez même pas à vous relever. Mais si vous avez toujours cette énergie renouvelée en vous, si quelqu'un essaie de vous faire un croche-patte, tout de suite vous appuyez sur le bouton. Au moment là où la personne vient pour vous attraper, vous appuyez sur le bouton. Alléluia! Et la personne vient, plus rien du tout, des courants d'air. Où il est? Où il est parti celui-là? Il est monté! Alléluia! Et vous êtes en haut, vous dites Alléluia mon frère! Alléluia! Tu peux, vas-y, fais ce que tu veux! Je suis parti! Alléluia! Alléluia! Moi, ma maison est dans le ciel. Je suis assis dans les lieux célestes. Alléluia! Gloire à Dieu! Alléluia! Voilà pourquoi personne n'a pu arrêter le Seigneur. Voilà pourquoi personne n'a pu arrêter l'apôtre Paul. Voilà pourquoi personne n'a pu arrêter les premiers chrétiens. On les faisait tomber, mais ils se relevaient tout le temps. Alléluia! Et ils revenaient, ils se disaient, où ils sont ceux-là? On les met dans une prison. On va les voir, ils sont plus dans la prison. C'est pas possible! Où ils ont disparu? Ils sont sur la place en train de prêcher l'évangile. Oh, gloire à Dieu! Et s'ils ne sont pas libérés, ils offrent leur vie en sacrifice pour le maître. Mais en aucun cas, ils n'abdiquent. Ils servent en adorant et ils meurent en adorant. Alléluia! Que le Seigneur soit béni. Mes chers amis, s'il y a cette énergie en nous, alors personne ne pourra nous arrêter. Au contraire, nous utiliserons toutes les circonstances négatives, difficiles de notre vie, pour alimenter notre foi et notre amour pour le Seigneur. Si bien que l'ennemi fera toujours une œuvre qui le trompe. Amen. Mais vous pourrez dire au diable,
Ah, t'as voulu m'arrêter quand tu as fait ça. Mais c'est exactement le contraire qui s'est passé. Pourquoi? Parce que vous avez su adorer Dieu. Parce que le diable veut faire une chose, une chose, une chose, ne l'oubliez pas. Qu'a dit le diable au Seigneur? Si tu te prosternes devant moi et m'adores, vous rendez compte? Il n'y allait pas par quatre chemins, le diable. Il voulait l'adoration de Jésus. Quel toupet! Quel toupet! On aurait pu croire au moins, comme il sait que c'est Jésus, le Fils de Dieu, au moins qu'il ne dise pas cela. Sachant à qui il avait affaire, mais quel toupet! Si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tout cela. Il y a deux personnes dans ce monde qui réclament notre adoration. Et si vous n'adorez pas Dieu et Dieu seul, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ne l'oubliez pas, voyez-vous, ça confirme encore ce que je vous disais tout à l'heure. Personne d'autre! Si vous n'adorez pas Dieu seul en Jésus-Christ, son Fils, vous adorez le diable. Sans vous en rendre compte! Car le diable réclame votre adoration. Ah, bien sûr, on n'est pas des adorateurs de Satan, comme certains le font. Mais on peut adorer le diable d'une autre manière. Au travers de la religion. Au travers d'une autre personne que nous vénérons. Au travers de l'argent. Au travers de l'idolâtrie. Au travers de beaucoup de choses. De nos titres. De notre orgueil intellectuel. Nous pouvons adorer le diable sans nous en rendre compte. Mais deux personnes dans ce monde réclament votre adoration. C'est pourquoi, si nous n'adorons pas Dieu seul en Jésus-Christ, nous adorons une autre personne. Et voilà pourquoi cela est insupportable devant Dieu. Peu importe qui que nous soyons, peu importe nos expériences, peu importe ce que nous faisons, ce que nous disons, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras. Lui seul. Que Dieu nous donne le courage et l'amour nécessaire pour le Seigneur, pour l'adorer lui seul, car lui seul est digne. Amen. Lui seul est digne. Dans l'Apocalypse, il est digne, l'agneau est digne de recevoir la louange. Parce que lui seul a payé votre dette. Lui seul a souffert. Il n'y en a qu'un qui a souffert. Lui seul vous a sauvé. Lui seul. Lui seul a bu la coupe amère de ton iniquité, de ta souillure, de ton péché. Lui seul a porté ton jugement pour que tu sois libéré. Lui seul en est digne. Il a aimé ceux qui ne sont point aimables. Il a aimé des rebelles. Il a aimé des injustes. Il a aimé ses ennemis. Il s'est donné pour chacun d'entre nous. Comment ne pas l'aimer en retour, tout entier? Pour toujours, à lui seul, soit la gloire, dès maintenant et à jamais. Amen. Merci Seigneur. Oh, à toi soit la gloire. Nous t'aimons, t'adorons, tu es tout pour nous. Et nous voulons exulter dans la présence de ton nom merveilleux. Oh oui, il y a quelque chose que nous ne pouvons plus contenir. Voyez comme il sait. Cela est visible. Merci Seigneur. Nous voulons serrer tes paroles dans notre cœur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Yeah. la joie est dans mon cœur. La joie est dans mon cœur, car Jésus est mon roi. Il est ma belle vivante et mon libérateur. Il est le tout-puissant, il marche devant moi. Et la joie est dans mon cœur. La joie est dans mon cœur, car Jésus est mon roi. Il est ma belle vivante et mon libérateur. Il est le tout-puissant, il marche devant moi. Et dans mon cœur,
pourquoi?
Libéré, et il m'a libéré. Libéré, et j'ai la victoire. Libéré, du péché de son pouvoir. Gloire à Jésus-Christ, à mon libéré. Libéré, il m'a libéré. Libéré. Pendant ton sanctuaire,
avec des cris de joie. À côté chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai avec des cris de joie. À côté chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Je
ensemble, s'incliner dans la prière. Faisons-le maintenant. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre gloire pour ces chants si merveilleux que tu nous as communiqués dans ta grâce. Merci Seigneur, parce que par eux, nous pouvons, avec joie et avec la paix dans le cœur, te louer, te rendre toute la gloire qui te revient. Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur, nous voulons te demander maintenant, en ton nom, de disposer nos cœurs à l'écoute de ce message que tu veux nous transmettre. Ô Seigneur, nous te prions de toucher chaque cœur en particulier. Ta parole nous dit que chacun rencontre pour lui-même devant toi. Seigneur, nous te demandons ce soir d'enlever de nos cœurs, de nos esprits, tout préjugé, tout présomption, Seigneur, et que nous puissions nous mettre à nu devant toi, accepter que toi qui vois tout, eh bien, tu es prêt ce soir à combler le vide de nos cœurs. Seigneur, nous te prions de bénir ton serviteur, de le oindre de ton esprit, afin que nous puissions tirer la grâce que tu nous avais réservée de toute éternité. En Jésus, amen.
Bien, chers amis, nous voici arrivés à la dernière soirée du passage du triomphe.